Merci beaucoup, Augustin. Très bonne journée et à demain.
Laval était l'avocat de la CGT Île-de-France. Il répétait « Je suis un ouvrier, parmi les ouvriers, un avocat au service des camarades ». Plaidait pour les syndicalistes, les militants révolutionnaires, membres du Parti Socialiste, mais à gauche.
Qui était Pierre Laval ? Qui était cet homme condamné à mort un 9 octobre 1945 pour haute trahison et complot contre la sûreté intérieure de l'État ? Un verdict prononcé devant une chaise vide. Laval avait préféré rester dans sa cellule. 6 jours plus tard, il est fusillé dans la cour de la prison de Fresnes. Des faits, rien que des faits. L'homme le plus détesté de France incarnait alors la collaboration d'État, un dirigeant capable de toutes les compromissions avec les nazis. Pour étayer ces éléments biographiques, il faut des faits. Encore, le scénario du téléfilm Laval, le collaborateur, écrit et produit par Jacques Kirsner, repose sur des faits. 1h34 documentées, travaillées, comme pourrait l'être un documentaire. Mais c'est bel et bien une fiction qui cherche à retracer une part de notre histoire à travers le parcours de Pierre Laval. À l'heure où les controverses historiques se multiplient, où certains sont tentés de réécrire des moments de notre passé, comment concevoir une telle œuvre ? Quelle est la responsabilité du producteur dans ce récit scénarisé ? Pourquoi raconter cette histoire et pas une autre ? Doit-on faire preuve d'objectivité ou d'honnêteté intellectuelle ?
L'instant M. Eva Rock sur France Inter.
Bonjour Jacques Kirsner.
Bonjour.
Demain, France 3 diffusera en première partie de soirée Laval, le collaborateur, fiction que vous avez écrite et produite et qui résonne particulièrement dans notre actualité. Nous allons y revenir. Jacques Kirsner, dans votre filmographie, on trouve les figures de Jaurès, de Louise Michel, de Clémenceau, de Céline, de Drummond, de Pétain. Pourquoi s'attaquer à Pierre Laval, qu'on décrivait comme l'homme le plus détesté de France ?
Mais parce que je voulais terminer ce travail avec... Laval, le collaborateur, et d'ailleurs, c'est un film que je dédie à ma sœur Rachel, qui a disparu, que j'ai pas connu, qui a disparu, à cette époque, à Lyon, dans la Résistance. Et donc, oui, je crois que c'était pas inutile de terminer ce travail par ce portrait d'un homme politique français qui, contrairement à une caricature, n'est pas une canaille assoiffée de sang. C'est un homme politique comme on en a connu beaucoup. Certains viennent de la droite et vont à la gauche. Celui-là venait de l'extrême gauche et a été à l'extrême droite.
Oui, c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs. Il débute sa carrière en 1903 au Comité révolutionnaire central. Son parcours, c'est plus de 40 ans de vie publique. Et vous ne racontez pas toutes ces années. Vous avez fait des choix. Comment vous avez fait pour construire ce personnage de fiction, qui est incarné d'ailleurs par l'excellent Patrick Chesnay ? Pourquoi tel élément biographique plutôt qu'un autre ?
À l'évidence... L'objectivité au cinéma, dans la télévision, à la radio...
C'est la grande question.
Ça n'existe pas. Si vous touchez à l'histoire, essayez d'être honnête avec les faits, de vous entourer. Et là, Serge Bernstein, que j'avais sollicité, le grand historien, a accepté de viser, de m'assurer que je n'écrivais ni ne disais de bêtises. Donc évidemment, je me suis attaché... dans cet opus comme dans les autres, à ce que la réalité historique soit garantie et qu'il n'y ait aucun arrangement au nom de la fiction avec cette réalité historique. Bien, maintenant, ce personnage, à certains égards, est shakespearien. Il sait ce qu'il va faire.
Oui, alors d'ailleurs, je voudrais qu'on écoute un extrait, parce que Laval est raconté en l'occurrence par un de ses avocats, dans votre fiction, qui découvre la vie de cet homme d'État à travers des témoignages de proches, et j'aimerais qu'on écoute en particulier cet extrait-là.
Pierre Laval vient de l'extrême-gauche pacifiste. Plus jamais de guerre après la saignée de 14-18, c'est son credo. On ne comprend rien à l'époque, si on oublie que le pacifisme domine alors dans l'opinion.
Jacques Kirsner, cet extrait m'a surpris et je dois le concéder. Il m'a surpris parce que la fiction a débuté depuis à peu près 6 minutes. Et à ce moment-là, eh bien, je le trouve plutôt sympathique, Laval. Alors, est-ce qu'il y avait une volonté de votre part de donner une part d'humanité à ce personnage ?
Je vais vous dire. Doriot des années 25, qui se bat dans la rue contre la police française, contre la bourgeoisie française, contre les faiseurs de guerre, qui mènent la campagne anticolonialiste contre la guerre du Rif, n'est pas le Doriot du Parti populaire français, fasciste, qui va s'engager sous l'uniforme nazi sur le front russe. Les hommes changent. Je voulais montrer aussi que nul n'est vacciné.
C'est
nul n'est vacciné. Ben, ça veut dire que Jacques Kirchner, à l'âge qu'il a, pourrait être totalement différent de ce qu'il a été 50 ans avant. Je connais beaucoup de gens qui ont traversé la rue, je les respecte beaucoup. Moi, j'ai fait un autre parcours, chacun le sien. Je ne porte pas de jugement. Simplement, la réalité de Laval est celle-là. Mmh. Il commence à l'extrême gauche, il défend les pauvres, il défend les syndicalistes, et il les défend avec conviction. Et il va devenir l'agent du fascisme en France.
Est-ce que je me trompe ou ce personnage est totalement a totalement disparu des programmes scolaires, a totalement même disparu de la façon dont on raconte notre histoire de France et notamment de cette période-là?
Mais ce que je crois, c'est que c'est un peu plus grave que ça. À force de réduire les heures d'histoire en France dans les lycées, à force de nouvelles pédagogies qui n'enseignent plus vraiment les faits et les dates sous prétexte de conception plus générale de l'histoire, les personnages passent à la trappe et la réalité de cette époque aussi.
Une scène a été très documentée, c'est celle du procès. Procès au cours duquel Laval est hué, conspué, un procès qu'il finira par quitter.
Je suis parlementaire et républicain, donc je dis que nous sommes entrés dans cette guerre illégalement.
C'est tout. Et si ce scrutin avait eu lieu, Laval, qu'auriez-vous fait?
J'aurais voté contre. Nous n'étions pas prêts. L'armée manquait d'armes et de tactiques un peu modernes, un peu nouvelles. Hein? Quant à l'état-major, bon, vous avez vu le résultat.
Est-ce que les procès doivent être filmés, Jacques Kirchner, et diffusés par ailleurs? C'est une question qu'on se pose beaucoup.
À l'évidence, si le procès Laval avait été filmé, on serait tous d'accord pour considérer que c'était un procès de guerre civile. Peut-être que c'était inévitable. Mais on voulait rapidement, avant les élections, Pétain ayant été gracié, que Laval soit fusillé. C'était une justice distributive politique, celle de la libération. Il faut dire, d'ailleurs, à l'époque, hein, qu'une grande partie des journalistes ont refusé, ont dénoncé les conditions de ce procès. Je parle des journalistes de la Résistance. Ont dénoncé les conditions de ce procès tout à fait incroyables. Pas d'instruction, pas de témoins, pas de documents de la défense.
Des gens qui hurlaient, qui criaient, qui le conspuaient.
Qui le dénonçaient
la...
en disant 12 balles dans
procès,
la peau.
Oui,
12
sûr.
Balles dans la peau. Qui lui coupait la parole. Et il faut quand même se considérer que Laval n'est pas un saint, c'est une canaille. C'est ce qu'un la femme d'un des avocats dit, c'est un salaud. On est tous d'accord. Enfin, moi, je suis évidemment d'accord avec ça. À plus forte raison, il avait le droit à un procès équitable, respectueux de ses droits et des droits de la défense. Constatons que ça n'a pas été le cas.
Raconter Laval, c'est raconter aussi la collaboration, c'est raconter les compromissions, c'est raconter l'antisémitisme. J'aimerais qu'on écoute un autre extrait, il s'agit d'un conseil avec Pétain.
Ça ne suffit pas. Il faut préciser que les Juifs sont exclus de la fonction publique et de l'éducation nationale. Je ne veux plus de Juifs dans les écoles, Laval. Ils ont fait assez de mal. Monsieur le Maréchal, comment les remplacerons-nous ? Il faut du temps pour former des maîtres. Débrouillez-vous. Je ne veux plus de sans-Dieu dans nos écoles. Il faut renforcer les interdictions professionnelles. Le statut doit être plus précis. Les emplois français sont réservés aux Français.
Ce sont les mots exacts de Pétain, Jacques Kirchner.
Ce sont les mots exacts de Pétain. Il suffit d'ouvrir le très bon Pétain de Marc Ferraud. Pour s'en convaincre, oui, tous les verbatims sont maintenant à la disposition des citoyens, à plus forte raison, des historiens, bien sûr. Et permettez-moi de dire un mot là-dessus, Laval n'est pas un antisémite. il demande à Bousquet d'organiser, avec les nazis, les rafles des juifs. Il n'est pas un antisémite. Selon la formule consacrée, il a des amis juifs. Pétain est un antisémite, et de longue date. C'est déjà différent, c'est lui qui exige la rédaction des deux statuts des juifs, et le premier, bien sûr, qu'on évoque là, Laval, c'est dans l'ordre des choses. L'époque est à l'antisémitisme, la politique implique l'antisémitisme, il le met en œuvre sans état d'âme. Et j'ajouterais ceci, jamais je n'aurais imaginé, jamais, je n'aurais imaginé que dans ce pays, en France, là où nous sommes, il se trouve un petit homme politique de caniveau qui aurait micro, caméra ouverte et qui pourrait dire que Pétain a sauvé les juifs français au détriment des juifs étrangers. D'abord, est-ce que si c'était vrai, ça vaudrait qualité ?
Oui, parce que vous avez raison, Jacques Kirsner. Nous sommes le 1er novembre 2021. Ce sujet est encore dans l'actualité. Quand je dis actualité, c'est parce que c'est ce que vous venez de dire. Il y a quelques jours, dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1, Éric Zemmour a réitéré des propos déjà tenus.
Je dis que Vichy a protégé les juifs français et qu'il a donné les juifs étrangers. Que aujourd'hui, on trouve ça abominable. Et c'est abominable, puisque ces pauvres gens sont morts.
Grâce à des policiers, et malgré Vichy, malgré Pétain, malgré Erlan, malgré Bousquet.
Mais bien sûr, les Français ont sauvé des juifs. Mais le principe même de la zone libre a sauvé des juifs.
Vous venez de répondre déjà un petit peu à la question qui suit, Jacques Kirsner. Vous qui travaillez la matière historique depuis des années, vous qui avez perdu plusieurs membres de votre famille dans cette période si noire, comment vous entendez ces mots? Comment vous les recevez?
D'abord, je suis vraiment, comme des millions d'autres, partisan de la démocratie, du libre débat. Je ne débats pas avec des canailles révisionnistes.
Vous êtes un fin observateur de la vie médiatique, Jacques Kirsner. Est-ce que vous pensez que notre espace médiatique, justement, manque de confrontation et de débat idéologique? Comment faire quand on est face à de tels propos?
Je vous dis simplement mon point de vue de citoyen.
Oui.
Qui est évidemment pour des rapports policés, des rapports civilisés entre les êtres humains, quelles que soient leurs convictions. Si vous sortez du champ de la démocratie, si vous prétendez à une différence entre les juifs français et les juifs étrangers, j'ouvre une parenthèse, le président Mornay qui présidera le procès Pétain et le procès Laval va participer à une commission de dénaturalisation, c'est-à-dire qu'on va retirer la nationalité française à des juifs qui sont français. Où est la différence entre les juifs qui ont leur carte d'identité et ceux qui ne l'avaient pas? Ce sont des canailleries, ce sont des infamies, libres à ceux qui le veulent de débattre avec une telle canaille, avec un tel ennemi de la République. Moi, je le regrette.
Vous êtes partagé, je le sens, entre à la fois la colère et l'émotion, c'est ça? Oui. Jacques Kirsner, on vous connaît pour votre regard acéré sur le monde médiatique. Vous avez toujours eu un discours critique, hein. Vous avez protesté contre la concentration des médias dans les mains d'industriels, contre le manque d'audace de France Télévisions. Qu'en est-il aujourd'hui? France Télévisions diffuse Laval à 21h. C'est plutôt audacieux?
Non seulement c'est audacieux, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La direction de France Télévisions m'a refusé pendant des années ce film. Quand Cid Gomez a été nommé, il a pris immédiatement la décision que je le produirais. Bravo.
Vous l'avez écrit il y a combien de temps ce film ?
Il y a très longtemps.
Et quand vous voyez qu'il rentre autant en écho et en confrontation avec cette actualité qu'on vit, qu'est-ce que vous vous dites ?
À la fois, je m'en félicite et je le regrette.
Il manque encore de quoi? De la pédagogie, de renforcer. On parle des programmes scolaires tout à l'heure, mais ça ne peut pas suffire. Qu'est-ce qu'il faut pour que, justement, cette mémoire-là ne soit pas offensée?
Je pense que, fondamentalement, à partir du moment où vous tuez l'espoir dans une société, vous créez les conditions de la montée du pire. Je ne crois pas que seulement, bien qu'il faille le faire, bien sûr qu'il faut écrire des livres, faire des films, combattre comme il se doit ces canailleries fascistes. De ce point de vue, j'ai écouté le grand rabbin Corsia. On ne partage pas les mêmes opinions. On se connaît, je dois dire que j'ai apprécié ce qu'il a dit, et il l'a dit avec netteté. Le problème est plus profond.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, en 2012, vous avez produit le documentaire Les Chiens de Garde, film adapté donc de l'essai de Serge Halimi.
Les Nouveaux Chiens de Garde.
Les Nouveaux Chiens de Garde, pardon, vous voyez, j'avais oublié le mot très important, Les Chiens de Garde étant le livre de Nizan. Les Nouveaux Chiens de Garde, on va attendre évidemment le volume 2 avec impatience. Et vous évoquiez dans ce film alors la collusion, les collusions entre les journalistes stars et les dirigeants politiques et économiques, mais aussi la perte d'indépendance des médias qui sont tombés dans l'escarcelle de groupes financiers. On est 10 ans plus tard. Jacques Hirsner, est-ce que la situation s'est aggravée selon vous ?
Ben, c'est quand même, on vit une époque formidable. Se prépare dans les coulisses, mais de manière publique, la fusion, excusez du peu, entre TF1 et M6. Je répète, la fusion entre les deux plus grandes chaînes commerciales publiques gratuites de ce pays. Et c'est un silence absolu. Absolu. D'un côté, M. Bolloré vient, dans le même silence, de rafler dans son escarcelle déjà bien remplie Europe numéro 1 et je ne sais plus combien de journaux de la presse écrite, de virer les journalistes comme on se débarrasse des esclaves pour en changer. Et maintenant, Motus, les deux plus grands groupes, prépare leur fusion, vous verrez que pendant la campagne électorale, personne n'en parlera, mais il se trouvera beaucoup de monde pour dire « Faut-il financer le service public ? Faut-il payer la redevance ?» Ce sont les mêmes, c'est dramatique.
Donc c'est tout ça qui vous incite à faire le volume 2 des Nouveaux Chiens de Garde. Vous savez déjà le titre ou pas ? Vous allez juste mettre
les
un
Nouveaux
petit
Chiens de Garde numéro 2.
Numéro 2. J'aimerais vous demander une dernière chose, Jacques Hirsner. Est-ce que vous arrivez à utiliser le terme de collaborateur quand vous parlez des personnes qui travaille avec vous ?
C'est une bonne question. Ça doit renvoyer et à l'inconscient et à la psychanalyse. Moi, j'ai été élevé par une mère et des sœurs ashkénazes. Donc, la psychanalyse, je m'en suis passé. C'est probablement un tort. Peut-être. J'en sais rien. C'est une question qui m'interpelle, comme on dit. Je vais y réfléchir.
Vous nous direz la prochaine fois. Si vous avez utilisé ou pas ce terme.
J'y réfléchirai.
Merci infiniment, Jacques Hirsner.
C'est moi qui vous remercie.
Merci. L'aval de collaborateurs que vous avez écrit et produit, réalisé par Laurent Henneman, est diffusé demain soir, mardi, sur France 3, à 21h05.